Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Jean B. Bonjour.
Salut.
Et de Tiffaine.
Coucou.
Tous les deux, vous êtes ici pour nous présenter une soirée de soutien aux personnes incarcérées. Ça aura lieu le samedi 20 avril à l'espace Columbia d'Aurel. Et donc, ce sera un accès prix libre. Et vous organisez donc une journée qui commencera à 16h avec des discussions et puis des concerts en soirée. Avant tout, quel est ce collectif qui organise cette soirée ?
Bonne question.
On peut pas dire que c'est un collectif. Oh là, on a réagi à une situation très concrète d'une amie à nous qui est incarcérée depuis 2 mois et demi au centre pénitentiaire de Pau. Et la question carcérale liée directement à la répression parfois ou pas, là pour le coup c'est lié à la répression, nous a donné envie, on est obligé de récolter de l'argent pour payer les frais de justice et du coup pour aider la copine à pouvoir vivre en prison. Et aussi, c'était l'occasion de parler de la question carcérale dans le Diwa, puisque en fond de vallée, à Di, on est un peu parfois dans nos bulles. La prison et la répression sont loin de nos foyers et de notre petit confort. Du coup, l'idée, c'était de poser sur la table cette question de l'univers carcéral, des violences d'État liées à la prison. Et voilà.
On a déjà reçu une personne, pour nommer Maria, par exemple, qui s'est retrouvée dans des conditions d'incarcération en préventive. Mais c'est toujours le même problème, c'est-à-dire complètement coupé du monde. Et si on n'a pas un petit apport financier, on n'a pas trop moyen de pouvoir relayer la parole vers l'extérieur.
Ouais, il y a tout un tas de freins sûrement à la visibilité des situations des personnes qui sont en prison. Il y a déjà beaucoup d'isolement social, en fait, par le simple fait d'aller en prison. Souvent, les personnes viennent de situations pas simples, en fait, socialement, au niveau des parcours, peut-être, de vie. En fait, au moment d'arriver en prison, il y a aussi tout un tas de gens qui peuvent lâcher, en fait. Et du coup, il y a un certain nombre de soutiens, en fait, qui ne sont plus là autour des personnes incarcérées. Et en fait, à ça s'ajoutent donc les différents frais de justice et les sous en fait qu'il faut pour manger au-delà du minimum et pour pouvoir exister au-delà du minimum qui est distribué par l'administration pénitentiaire et qui est vraiment selon tout un tas de témoignages, tout un tas de récits pitoyables en fait, et où du coup pour pouvoir cantiner du tabac, pour pouvoir téléphoner, pour pouvoir écrire, envoyer des courriers, il faut des timbres, pour pouvoir améliorer le quotidien, il faut de l'argent, et puis rien que pour les frais de justice, il faut un gros paquet d'argent. Du coup, la répression en fait c'est aussi une répression financière, et le parcours en prison c'est aussi un parcours de galère financière, parce qu'en fait il y a les frais, etc., et une fois qu'on est à l'intérieur, en fait, le seul moyen de gagner éventuellement des sous, si on n'a pas des personnes dehors pour nous soutenir, c'est de travailler en prison. Et le travail en prison est payé, 6, 4 ou 5 fois en dessous du SMIC.
Ouais, ça peut être 2 euros de l'heure, travailler pour des grosses boîtes, enfin oui, tout l'univers intérieur.
Un pécule. Mm-hmm. Donc. Ces prisonniers sont en relation avec les événements des Gilets jaunes, je suppose, ces derniers temps. Ou alors, ils sont aussi par rapport à d'autres événements ou d'autres mouvements tels que Notre-Dame-des-Landes, en exemple.
Pas précisément Notre-Dame-des-Landes. Après, c'est lié au mouvement social, pour le coup. Nous, on soutient surtout une amie qui était sur une manifestation des Gilets jaunes au mois de mars et qui s'est fait interpeller à ce moment-là. La lutte, elle est plus large parce qu'effectivement, nous, on sait qu'on a invité des gens aussi qui vont venir parler de ce qui se passe, de la répression en Italie, notamment autour de Turin et de Tremonto et des incarcérations qui ont pu avoir lieu il y a 2 mois maintenant, et que si on a beaucoup de sous dans les caisses, c'est vers ces personnes-là qu'on s'est dit qu'on renverrait l'argent. Donc du coup, c'est pas directement le cadre du mouvement des Gilets jaunes, mais effectivement, c'est autour des engagements que les personnes prennent quand ils vont dans la rue pour quelque lutte que ce soit, et où forcément, quand on se met comme ça à parler, à dire ce qu'on pense, à pas être d'accord, la répression s'abat sur nous. Donc oui, c'est un côté politique.
Quelque part, il y a une résonance avec le mouvement des Gilets jaunes en particulier, parce que, en fait, au niveau de la vallée, il y a déjà eu des poursuites récentes de personnes liées à des manifs de Gilets jaunes. Et cet événement-là, il vient résonner avec cet événement précédent qui avait eu lieu, puisque c'était un événement qui avait vocation à mettre en lumière aussi, en fait, les dynamiques répressives actuelles. Et dans la répression actuelle, il faut voir qu'il y a une frénésie quand même de la part du pouvoir, avec des cadres légaux qui, d'année en année, rendent de plus en plus facile les poursuites des gens, élargissent les raisons pour lesquelles on peut être poursuivi, arrêté, emmené vers le tribunal, détenu préventivement. Ça commence à devenir vraiment plus courant, plus fréquent, plus massif. En fait, il y a vraiment des centaines et des centaines et des centaines de personnes en fait qui ont fait l'objet de procédures vraiment expéditives là dans les derniers mois, notamment donc dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, comme s'il y avait une tension imposée de la part du pouvoir pour vraiment essayer de faire flipper tout le monde, d'inciter à ne plus aller en manif, etc. Là, il y a le nouveau cadre de la loi anti-casseurs aussi qui donc même s'il y a un des articles, l'article 3 que je crois qu'il a sauté. Il y a quand même des restrictions de plus en plus fortes au droit de manifester, etc. La possibilité pour les préfets de décréter des manifs illégales. Et en fait, tout ce genre de cadre emmène de plus en plus de personnes dans la répression, et notamment des profils qui sont atypiques, disons, peut-être dans les parcours carcéraux, puisque la prison, c'est peut-être en France essentiellement une prison de pauvres, en fait, de gens qui sont en galère. Et avec ce genre de nouvelles lois et ce genre de répression supermassive du mouvement social, du coup, il y a un certain nombre de personnes qui n'étaient a priori peut-être pas directement les premières cibles de la répression, qui se retrouvent à faire des parcours carcéraux. Et donc, ça sollicite de nouveaux milieux sociaux aussi au niveau de en parler, s'approprier cette question.
Alors, ces moyens d'expression considérés comme violents par le pouvoir, est-ce que vous pensez que entre le moyen d'expression, parce qu'on parle de violence, mais mai 68 était autrement plus violent que ces manifs de gilets jaunes d'aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a pas eu un renforcement de lois répressives sur le droit de manifester. Qu'est-ce qui fait que... Quel est votre sentiment sur le durcissement du pouvoir actuel face à la manifestation ou aux revendications ?
Je sais pas, ils ont peur.
Non, je sais pas. Est-ce que c'est un
moyen ? Je sais pas, je pense que c'est une question vraiment, vraiment, vraiment ouverte. Et c'est un peu aussi dans ce titre-là qu'on a mis de la soirée, qu'on n'a pas encore prononcé. Là, c'est le titre de la soirée, de la journée, c'est « Vous vous attendiez à quoi ?» Et c'est effectivement lié à ce durcissement de la répression depuis notamment... Enfin, c'est pas que depuis le mouvement des Gilets jaunes, parce que la loi anti-casseurs, les premières écritures, c'était au moment de la loi travail. Et du coup, ça date d'avant ça, mais il y a une accumulation au fur et à mesure du temps des moyens répressifs que l'État met en place. Son bras armé, c'est la police, mais c'est l'État qui met en place toute cette répression. Moi, je dis en rigolant parce que l'État a peur, parce que c'est effectivement aujourd'hui mettre quelqu'un en détention préventive et formuler 3 mois de prison ferme pour avoir arraché un bonnet à un policier, ça fait peur. Et aujourd'hui, les peines de prison ferme sont beaucoup plus tombent beaucoup plus régulièrement. À Caen, il y a un type qui a pris 8 mois de ferme pour avoir été interpellé avec des cailloux dans les poches. On fouille systématiquement les voitures, même quand les personnes sont juste aux sorties d'autoroutes et pas aux abords de la manifestation. Les gens se font enfermer et nasser dans les manifestations avant même que la manifestation ait commencé, comme ça s'est passé à Avignon il y a 2 semaines. Donc c'est une manière de mettre un gros coup de... Alors je sais pas si c'est un gros coup de pelle ou un gros coup de marteau. Pour le coup, en ce moment, c'est beaucoup de coups de flashball, de Gli F4, grenades de désencerclement et toutes les armes non létales qui sont utilisées dans les manifestations, non létales et létales, pour le coup. Qu'est-ce que veut le gouvernement ? Le gouvernement veut protéger son monde, veut protéger ses richesses. Le gouvernement souhaite protéger ses investisseurs. Et ça, c'est directement lié à la société capitaliste qui, aujourd'hui, ne pense plus au nom des êtres humains, mais pense au nom d'un système marchand. Et le mouvement des Gilets jaunes se retrouve comme au centre de cette bataille que le gouvernement va mener contre, encore une fois, des gens qui sont quand même des gens qui sont dans la misère, qui sont en galère, qui viennent défendre leurs droits, qui viennent défendre la privatisation dans les services publics, qui viennent défendre 5 euros ou 10 euros de moins sur leurs APL, qui viennent défendre des conditions de travail infâmes. Et ça, c'est une réalité qu'on retrouve dans tellement de corps de métier et tellement de situations en France que moi, j'ai l'impression que si l'État fait ça, c'est vraiment pour protéger des intérêts économiques.
Moi, je dirais quelque chose qui va dans le même sens. En fait, si depuis 30 ans, il y a à peu près chaque année une nouvelle loi sécuritaire ou antiterroriste et que du coup, on a des dispositifs qui s'accumulent et qui... Peut-être on peut se poser la question de savoir si la moindre de ces lois est efficace, puisqu'il y a besoin d'en remettre 30 les unes à la suite des autres. Mais en y allant pas à pas comme ça, les parlementaires, les sénateurs et en fait l'ensemble d'une élite ou d'une classe en fait dominante qui est de plus en plus riche, de moins en moins nombreuse, à avoir de plus en plus de capitaux, finalement une part de plus en plus grande de capitaux, quand on regarde un petit peu des analyses sociologiques sur la distribution de la richesse aujourd'hui. C'est comme si, et puis le Parlement par exemple là, de La République En Marche, c'est un Parlement qui est plus bourgeois que jamais au niveau de la répartition des différents métiers, des corps de métiers ou des catégories socioprofessionnelles représentées à l'Assemblée par rapport à la place qu'elles ont dans la société. C'est une Assemblée qui est la moins représentative quasiment qu'elle n'a jamais été sur les dernières décennies. Et en fait, ça correspond du coup à un glissement vers une prise de pouvoir et à une volonté de contrôler le pouvoir, en fait, ou un maintien de la domination. Moi, je pense vraiment, je le dirais comme ça, d'une certaine classe qui cherche à défendre à tout prix ses intérêts et qui, du coup, met en place d'année en année, par les dispositifs, par des moyens légaux, un quadrillage du territoire qui est de plus en plus militaire, une gestion du maintien de l'ordre qui est de plus en plus militaire, une confusion entre les rôles de la police et de l'armée et une utilisation de plus en plus déployée, permanente, en fait, de l'armée et de la police. Un élargissement des raisons pour lesquelles on peut arrêter les personnes, on peut les placer en détention préventive. Petit à petit, on pousse le juge le plus loin possible et on étend les pouvoirs de police, les pouvoirs administratifs au préalable. Et en fait, quand on entend aussi un certain nombre d'éditorialistes, par exemple, de grands médias, ou même un ancien ministre, Luc Ferry ou d'autres, dès le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une volonté de rendre impossible une subversion, de rendre impossible un vrai mouvement populaire qui puisse durer. Et en fait, il y a eu une invitation par un certain nombre d'élites invitation faite à la police à utiliser le maximum de force contre les manifestants, quitte à, Luc Ferry disait, ils ont des armes à feu, qu'ils s'en servent une bonne fois pour toutes. Mmh. Et donc c'est l'invitation d'un ancien ministre de l'éducation, je crois qu'il était il y a quelques années. Mmh. Et donc ça donne un petit peu peut-être la tendance de là où on en est, c'est-à-dire que pour préserver la rentabilité, le profit, le pognon de dingue auquel Macron aspire, et pour lui et pour ceux qui l'entourent, voilà, pourquoi pas tirer sur une foule de travailleurs pauvres en fait qui vient manifester mais à l'heure actuelle, ouais, il y a une vraie vigueur dans ce mouvement quand même et dans différents endroits de la société où il y a une vraie envie d'en découdre avec cette classe dominante peut-être.
Mais oublions pas d'ailleurs que ça, c'est Mathieu Régousse qui a fait toute une enquête sur la domination policière et comment au fur et à mesure du temps l'État a mis en place ses forces sur le terrain, et le terrain de jeu disons de l'État, c'était les banlieues, hein. les premières créations de BAC, de brigades, enfin voilà, les tests, c'était dans les banlieues, parce que là en fait, et c'est ce qu'on entend malheureusement encore aujourd'hui aussi dans le mouvement des Gilets jaunes, ils sont forts pour nous tirer dessus, mais ils ont qu'à aller s'occuper de la racaille des banlieues, parce qu'on nous a monté le cerveau. On nous a monté le bourrichon au fur et à mesure du temps, en nous en pointant du doigt une certaine partie de la population en disant que c'était eux les méchants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le sous-titre de la soirée, c'est 80% des prisonniers, ces prisonnières sont ouvriers, chômeurs ou sans logis. Ça, c'est une punchline de Assassin qui date des années 95. C'est encore vrai aujourd'hui. Et en fait, ils ont bien travaillé leur scénario, comme si... Enfin, moi, je vois toujours ça un peu comme des romans d'anticipation ou de science-fiction tellement ça me paraît dingue, mais parce qu'ils sont allés stigmatiser des populations, les populations les plus précaires, les plus pauvres, des populations racisées qui sont beaucoup celles qu'on trouve en prison aujourd'hui, pour qu'on se trompe sur qui est l'ennemi. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont compris qu'en fait, non, ça allait pas de savoir que la première fortune de France gagne 800 euros par seconde. Et qu'en fait, il y a un moment, les gens veulent plus se laisser berner. Donc, ça fait longtemps en fait que c'est sur le feu que l'État met en place toute cette répression. Peut-être que justement, pour répondre un peu aussi, revenir à ta question, en mai 68, on n'était pas au même endroit dans cette société capitaliste, dans l'avancée en fait des pouvoirs, du pouvoir des riches, et que à cette époque-là, ils avaient une stratégie qui était différente, quoi. Mais voilà.
Nous allons parler un petit peu de ce groupe qui a introduit l'émission et qui participera à cette journée, Dial Caloise. Dial Caloise, alors il vient d'Italie.
Oui, Dial Caloise, c'est un groupe de rock qui est basé à Turin et qui joue depuis, je pense qu'ils ont joué ensemble déjà une vingtaine d'années. Qui est pas mal lié à Radio Blackout par exemple et qui s'associe de différentes façons mais en tout cas en donnant des concerts sur des questions sur mille et une luttes en fait, des luttes sociales et des luttes dans le territoire turinois, dans le Val de Souze, dans la vis-à-vis de la frontière aussi, et en fait dans face à toutes les offensives de l'État et du capitalisme à Turin et autour. Et en fait, les messages qui sont portés, c'est de rappeler que, par exemple, la chanson qu'on écoutait tout à l'heure, Brigante se muore, c'est eh bien qu'il y a une vieille tradition du brigandage en Italie avec à un moment donné, en fait, une capacité d'auto-organisation dans la population qui était forte et qui était diffuse dans tout un tas de territoires et qui, en fait, était désobéissante contre ce qui était jugé être un pouvoir odieux ou illégitime. Et que, du coup, en fait, il y avait de la rapine organisée, il y avait de l'auto-organisation armée à différents endroits du territoire pour faire opposition en fait à ce qui était jugé un pouvoir abusif, autoritaire, et qu'en fait ça fait partie de l'histoire italienne. Peut-être que ça fait pas partie de l'histoire française récente. En tout cas, ça c'est quelque chose qui remonte à par exemple dans le fin du 19e, dans le courant du 19e, il y a ça qui existe. En France, il y a des éruptions de mouvements sociaux. À différents moments, il y a tout un tas d'épisodes au 19e et au 20e siècle, petit à petit, on s'est fait pacifier en fait. Il y a eu tout un tas de mécanismes massifs qui ont pacifié à l'échelle nationale la société, c'est mon avis. Et en fait, peut-être qu'on manque de dynamique d'auto-organisation et qu'on a du mal à trouver un deuxième souffle, à faire durer des mouvements à la fois au niveau des territoires et au niveau national. Et peut-être que du coup, c'est chouette parce qu'au travers du rock, on peut aussi avoir des passages de mémoire, des transmissions, un petit peu d'histoire collective, à travers du rock ou du rap, ou tout un tas d'autres musiques. Mais là, les Dial Caloise, ils essayent de faire passer leurs convictions anarchistes et des histoires aussi un petit peu des luttes du passé.
Alors avant de continuer l'émission, on va proposer à l'écoute un deuxième morceau d'un groupe qui s'appelle Hugo TSR et titré Dégradation, un groupe qui ne sera pas présent pour ce week-end, mais qui répond aussi à vos attentes et qui relaie un peu vos paroles.
C'est beaucoup parce qu'on pense fort à Rita, qui est incarcérée depuis 2 mois et demi et qu'on communique avec elle par lettre, et aussi parce qu'il y a une radio qui diffuse une émission en prison dans le centre pénitentiaire dans lequel elle est. Et ça, c'est super chouette d'ailleurs. Ça donne. Enfin, il y a très peu de communication avec les prisonniers et les prisonnières. Et c'est vrai que du coup, quand on a trouvé cette émission, on a appelé et elle, dans ses lettres, elle nous a demandé de lui diffuser cette chanson, puisqu'elle avait cette chanson en tête et qu'elle n'arrivait pas à retrouver les paroles. Et du coup, c'est notre lien en fait avec notre amie là qui nous manque.
On les appelle les taggers. La nuit, ils rasent les murs équipés de feutres ou de bombes à peinture. Ils affectionnent les wagons du métro. Ce ne sont plus des graffitis, disent les amateurs, c'est de l'art brut. Brut peut-être, mais cher pour la RATP.
Ils disent que le rap c'est pas pour toi, les écoute pas, c'est pas si dur d'en faire. Sinon t'as le graffiti sur le barane et la teinture française. Malgré les grosses descentes, on reste posé du côté sombre. Mon son s'écoute avec un pet et des lunettes de protection. Ton œil va prendre un coca, y'a du panel, du wall car le métro mange des grosses claques. Je speed même sous Zubrovska, Paris sans crack. Ma ville rembarge, là je vis en marche. La crise scandale, ça vient en masse. TSR croule, l'art de la rime vandale. Je rappile au mille, j'aime le bordel, fonce des a priori. Je suis le nouveau reporter sur le terre-terre, meilleur qu'April O'Neil. On éclate tout, pas le temps pour les timiniques. Fat des caps, four sur des cartouches de 400 millilitres. Quand les bouffons bouffonnent, même à quitter, on me soupçonne. Et je garde la tête dans les nuages, même sans quitter mon sous-sol. Je fais les mêmes plans en innovant, je rentre dans le dépôt en bricolant. J'évite au troisième rail, je fais pas confiance à mes semelles isolantes. Dégradation, c'est les délires d'un grand mégalomane. On encule les notables et on revient même quand t'effaces nos tags. Alerte à la bombe, cavalcade dans un vacarme. Normal, le son fracasse, sur mon micro y'a un fat cap. Dégradation, c'est les délires d'un grand mégalomane. On encule les notables et on revient même quand t'effaces nos tags. Alerte à la bombe, cavalcade dans un vacarme. Normal, le son fracasse, sur mon micro y'a un fat cap. Ça quiebra, ça quiètera, on fait nos bails, ne t'inquiète pas. Les marques de luxe, je les aime pas, sauf tamponner sur les quêtes plats. Le barème est simple, pour une un jour on te met deux coups. Paré et tatoué, pas besoin de cheat pour avoir les yeux rouges. En immersion, comme la Calypso, un vandale parmi d'autres. Si on se fait prendre, on reviendra avec des blases mythos. Fonté au clan dans un mouvement affaiblissant. Tant pis, je reviens demain, le maître chien a fait nuit blanche. J'ai mis le paquet, neutraliser l'alarme, éclater les barrières. Fais un panel et tu reverras jamais Paris pareil. Dans le rap, c'est la même vandale style. Ça sent le traquenard, descenseur dans la stade. Dans mon crew, pas de fond blard car la rage m'accompagne. Je m'en fous de marquer l'histoire, mais tant que je suis là, je marque mon blast. Squatter de dépôt, je suis un vandale, pas un b-boy. En plein dans mes contours, je suis alerté par un bruit de porte en plus. Y'aura pas de light, pour finir, y'a pas le time. Je vais retrouver mon matelas, je suis dans le faisceau d'une maglite. Cellule anti-tac, t'attends l'amende et puis tu serres les fesses. Je fais partie de ceux interrogés par le commissaire Etienne. Jamais balancé, j'étais seul, j'ai pas tagué. Je suis parti pisser, seconde après, je suis matraqué. Voilà ma version des faits, on baisse les trompes comme des salopes. Bousillé, c'est mon travail, je repeins Paris, je mériterais les allocs. Dégradation, c'est les délires d'un grand mégalomane. On encule les notables et on revient même quand t'effaces nos tags. Alerte à la bombe, cavalcade dans un vacarme. Normal, le son fracasse, sur mon micro y'a un fat cap. Dégradation, c'est les délires d'un grand mégalomane. On encule les notables et on revient même quand t'effaces nos tags. Alerte à la bombe, cavalcade dans un vacarme. Normal, le son fracasse, sur mon micro y'a un fat cap.
Le graffiti a pris 10 ans de ma vie. Moi j'ai fait ça de manière méticuleuse, sérieuse, comme un travail. Et maintenant je réalise que j'ai fait tout ça pour pas grand chose, uniquement pour le kiff. Et s'il fallait le refaire, je le referais direct.
Cette incarcération de votre ami est liée au graffiti ?
Est-ce que c'est lié au graffiti ou pas ? Je sais pas. En fait, en tout cas, elle est poursuivie et maintenant elle est reconnue coupable d'eux. Alors, est-ce qu'elle a eu ou est-ce qu'elle n'a pas eu en main quelque chose qui lui a permis ou pas de faire un graffiti ? Ça, c'est une autre question, parce qu'aujourd'hui, on enferme n'importe qui sans preuve. En fait, c'est pas que d'aujourd'hui, je veux dire, ça fait longtemps, ça fait partie des logiques judiciaires. En tout cas, elle est incarcérée pour dégradation en réunion d'un bien public destiné à la décoration ou à un usage public. Et il se trouve que c'est un poste de gendarmerie, l'objet décoratif en question. Et qu'en fait, à un moment donné de la manifestation de Gilets jaunes, il y a eu voilà, une partie du cortège qui s'est dirigée sur la rue où se trouve le poste de gendarmerie et que il a été observé une certaine agitation, une certaine volonté de marquer le coup sur le commissariat de je sais pas, en tout cas c'était assez festif comme moment. Et il y a des personnes qui ont été arrêtées. Étaient-elles présentes un peu après? Il y a des personnes qui ont été arrêtées, parmi lesquelles notre amie. Est-ce qu'elle a participé? Est-ce qu'elle n'a pas participé? C'est difficile de le dire.
Il n'y a pas de preuve au procès.
Il n'y a aucune preuve. Et par contre, elle a pris 4 mois de prison pour ça. Et en plus, après, comme elle a refusé de donner son ADN et bien elle a pris 2 mois supplémentaires en fait au moment du procès donc sur les faits et donc ce qui a fait 6 mois. Elle était jugée avec il y avait 3 autres prévenus majeurs. Il y a un 4e autre qui est mineur sera jugé plus tard, mais du coup les 3 autres majeurs eux ont eu aussi des peines de prison ferme de 4 et 3 mois. Et du sursis pour le 3e, mais sans mandat de dépôt. Aucun d'entre eux n'est allé en prison à l'issue du procès, puisqu'ils ont eu la possibilité d'avoir des aménagements de peine. Il se trouve qu'eux sont français, qu'elle n'est pas de nationalité française, elle est européenne mais pas de nationalité française, et que du coup, en fait, peut-être que la juge a cherché à mettre des amendes à ceux qu'elle était sûre de pouvoir... ou qu'elle disait être sûre de pouvoir attraper, donc des ressortissants français avec des adresses en France, alors qu'une ressortissante non française, eh ben peut-être que c'était pas évident de pouvoir lui faire payer des amendes, donc on allait lui faire payer une peine de prison, histoire de passer un message quand même à l'ensemble de la manifestation Gilets jaunes, et que si vous refusez la signalétique, ben on vous rajoute 2 mois par exemple. Donc il y a une discrimination qui est faite par le parquet, par le tribunal, entre des personnes, il y a une incarcération et puis des peines de prison sans preuve, parce que l'ensemble des dossiers des 4 personnes inculpées sont vides, en fait, il n'y a rien, il n'y a aucune preuve matérielle contre eux individuellement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des effets, il y a des dégradations sur le commissariat, etc., mais on ne peut pas dire c'est eux, en fait, c'est juste voilà, la logique absurde, l'arbitraire, en fait, de la justice habituelle.
Alors, par rapport à la prise d'ADN, en cas de refus, lors de cette création de prise d'ADN, il me semblait qu'il y avait une condamnation de 250 € d'amende. Maintenant, il y a aussi, en plus, une peine de prison assortie.
C'était étonnant. Nous, on a été extrêmement étonnés.
Voilà,
parce qu'on a
ça rejoint un peu cette loi anti-casseurs qui, en fait, ne crée pas de nouveaux textes, mais modifie les peines. Hein. C'est-à-dire que le droit, l'interdiction, le fait de manifester dans une zone non autorisée donc, est passé de 150 € à 15 000 € et de non-peine à 1 an de prison ferme.
Ah oui, pour l'interdiction de manifester.
Oui, voilà. Donc, c'est ça qui est aussi mis en avant. Et donc, on tape sur le porte-monnaie du manifestant, puisque c'est surtout un mouvement de personnes un peu pauvres qui manifestent. Donc, il y a cette peur de l'argent, cette matraque financière.
Il y a cette peur, mais du coup, il y a de l'organisation. Puisqu'on peut voir, en tout cas dans le cas du mouvement des Gilets jaunes, dans le dernier jaune, le journal, il y a une première carte qui a commencé à sortir sur toutes les legal teams, donc les personnes qui s'organisent collectivement pour accompagner et aider financièrement et aussi sur du conseil juridique, de l'accompagnement pour les personnes qui se retrouvent dans des situations toquées par la justice, soit perquisitionnées, soit en garde à vue, soit incarcérées. Et il y a du coup, ça provoque une solidarité dans la recherche d'entraide, de la recherche d'argent. C'est un peu ce qui se passe pour la soirée du samedi 20 avril, puisque effectivement, là, au Gîte de la Colombe, en fait, nous, on est dans le Diwa, elle est à Pau. Qu'est-ce qui se passe, à part le fait que ça nous tient à cœur et qu'on trouve ça hyper important aussi de mettre sur la table que les mouvements de solidarité, il faut qu'ils existent partout pour tout le monde et qu'on a besoin de thunes, en fait. Du coup, oui, bien sûr, l'État, en ce moment, par exemple, après avoir fait beaucoup de peines exemplaires, après avoir abattu beaucoup de jugements sur les gens au niveau national, la stratégie de l'État, en ce moment, c'est de mettre des amendes individuelles. Donc, des amendes individuelles pour, par exemple, présence sur la voie publique. Pour stationnement. Donc il y a comme ça, il y a eu, je crois, 10 personnes à Creil il y a 2 semaines qui ont eu 130 € d'amende par personne pour justement, et ça c'est pour empêcher les gens de revenir. Parce qu'effectivement, quand ça touche au porte-monnaie, ben derrière, si on est tout seul à devoir payer 130 € par-ci, 400 € par-là et tout, et ben ça fait qu'on sort plus dans la rue. On a peur parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà, donc il y a de la solidarité aussi à l'intérieur de cette répression.
On peut se demander aussi s'il n'y a pas une espèce de logique, plusieurs logiques financières en fait qui s'articulent dans la répression, avec donc une espèce de essayer de mettre la pression sur tout le monde par des mécanismes d'amende. Il y a aussi le cas, par exemple, des notifications de peine où, par exemple, tu as besoin de manger, tu n'as pas les moyens, tu vas au supermarché, tu prends le morceau de viande, tu te fais attraper. Et au lieu d'aller au tribunal, à l'issue d'une garde à vue, on te dit tu seras invité à te présenter chez le procureur. Et le procureur, en fait, il va te remettre une notification de peine. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un jugement pendant lequel tu pourras te défendre, d'avoir été dans un état de nécessité, d'avoir... Non, tu vas juste recevoir une notification de peine sur laquelle sera marqué le montant de l'amende, par exemple. Donc un bout de viande, peut-être tu vas prendre 200-300 euros d'amende. Et tu n'auras pas moyen de faire appel de cette décision, parce que c'est une décision expéditive qui est déjà en place. Et donc, en fait, il y a des mécanismes d'industrialisation un petit peu des décisions comme ça, donc avec les amendes, comme tu disais, individuelles sur les manifs, une décision de préfectorale de dire pas de manif gilet jaune dans la vallée de la Drôme sur les ronds-points, ça veut dire, si on fait la somme, le samedi en question, 1500 euros d'amende à l'échelle d'un groupe. Ensuite, multiplier les mécanismes où tu reçois simplement une lettre qui te dit et en fait tu passes plus forcément par le droit à la défense, en fait, et t'évacues petit à petit comme ça le droit de se défendre et de justifier en fait pourquoi est-ce qu'on a fait cette infraction. Mais non, ça devient automatique, tu prends une peine et puis c'est individuel. Donc en fait, dans la logique de s'organiser collectivement, c'est aussi de s'approprier la question derrière la peine, en fait. C'est-à-dire, pourquoi on devrait prendre une amende pour ça? Pourquoi on devrait prendre une amende pour ça? Et pourquoi ce serait telle et telle personne qui devrait la payer, en fait? Non, en fait, c'est notre affaire à tous. Cette personne, elle s'est fait arrêter, mais ça aurait pu être n'importe qui pendant cette manifestation. On ne peut pas la remplacer à l'intérieur. Par contre, on peut la soutenir autant qu'on peut de l'extérieur. Il y a différentes manières de le faire, mais il y a aussi rendre visibles les logiques du pouvoir et peut-être arrêter de les faire en sorte de les subir moins isolément, quoi. Et de peut-être de s'organiser ensemble pour subir moins, chacun dans notre coin, chacun dans notre tête, ce qui se passe avec ça. Et du coup, quand on va en manif, si on sait qu'il y a une équipe qui, quand on se fait arrêter, peut faciliter la représentation, qui peut faciliter, soutenir, faire le lien avec la famille, faire le lien avec les proches, etc., faire en sorte de ne pas être trop isolé, ça peut faire du bien. Et au-delà de ça, après, ça peut permettre de soutenir dans le concret, en fait, pour toute la suite des procédures, même si on se retrouve à l'intérieur de la prison, on est seul, en fait, là-bas.
Nous allons présenter cette journée, donc, qui commence à 16h. Et à 17h, donc, il y aura une discussion. Vous avez une thématique?
On aimerait pouvoir faire un état des lieux un petit peu des dispositifs, justement, politiques existants et répressifs, et de ce qui s'est renforcé dans les dernières années, en fait, au niveau aussi des politiques carcérales, des dynamiques de construction de prisons actuelles. Pas tellement pour glorifier ou pour se faire mal, mais plutôt pour prendre conscience, en fait, de ce que l'on a en face de nous. Et que ça concerne le régime général, en fait, dans lequel il y a 70 000 détenus, que ça concerne les 250 000 personnes qui sont sous contrôle judiciaire ou aménagement de peine X ou Y et qui sont à l'extérieur des prisons, mais avec des bracelets électroniques, par exemple, que ça concerne les dizaines de milliers de personnes qui sont en rétention sur le territoire français, en rétention administrative, parce qu'elles n'ont pas les bons papiers nationaux ou de séjour, et qui est une autre forme de prison, que ce soit les personnes qui sont dans des parcours de soins psychiatriques imposés parce qu'elles ont été placées en hospitalisation d'office à un moment donné. Donc on pourra aborder, selon la dynamique de la discussion, un petit peu ces différents biais. Et puis il y aura aussi des témoignages de personnes présentes, où on lira des témoignages aussi de personnes qui sont encore ou qui sont passées par la prison pour envisager aussi du... autant que possible du point de vue des détenus, parce que en fait il y a un truc qui est intéressant qui est nommé souvent qui a l'air de revenir souvent, en fait, c'est que dans l'état actuel de société relativement pacifiée, en fait, là où on en est aujourd'hui en 2019, l'information sur les prisons provient essentiellement de personnes qui ne sont pas incarcérées et qui ne sont pas passées par la prison. Et en fait, du coup, c'est comme si ça restait une zone avec un angle mort important, où en fait, le témoignage n'est pas direct, et il y a une déconnexion entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'on peut en dire et comment on s'organise à l'extérieur. Et où du coup, il est super important d'essayer de donner de la place. Donc il y aura un petit peu de témoignage de la part des personnes... De personnes qui sont passées par là.
Et l'idée aussi de faire un point sur ce qui s'est passé à Turin et à Tremonto, où il y a encore 13 personnes qui sont incarcérées en Italie, notamment lié à la fermeture de, du lieu qui s'appelait l'Asilo Occupato, qui est un lieu qui existait, un des plus vieux squats d'Italie, qui existait depuis 24 ans. Donc il y a eu, donc c'est un lieu d'accueil, un lieu d'hébergement, un lieu qui soutenait les personnes sans papier, et du coup voilà, directement attaqué il y a 2 mois à peu près. Et du coup, de peut-être voir aussi comment ça se passe en Italie, ce pays qui est frontalier avec le nôtre, où il y a une répression et où les systèmes d'incarcération sont différents, puisque pour le coup, on disait tout à l'heure que voilà, on se retrouve dans les mouvements sociaux avec les militants qui se retrouvent, les personnes qui vont dans la rue, qui se retrouvent incarcérées, et du coup d'une autre classe sociale attaquée. En Italie, ça se passe différemment, puisqu'il y a des secteurs prisonniers politiques, il y a le 41 bis, compter le nombre de prisonniers politiques qui sont aujourd'hui, je pense, une soixantaine entre les anarchistes et les communistes, ce qui n'est pas le cas en France. Et voilà, et donc la répression en Italie est très différente, puisqu'il y a une police politique. On pourra aussi un point là-dessus.
Et puis à la suite, donc il y aura cet info-kiosque, ça c'est un lieu que l'on trouve habituellement. Et puis projection, donc vous projeterez quel film ou quel document ?
Il y a l'idée que ça soit dans une caravane, donc les projections auront lieu toute la soirée, sauf pendant la discussion, mais du coup à partir de 19h, l'idée c'est de pouvoir venir, repartir. Il y aura des films entre 2 minutes et 20 minutes, peut-être même un film qui nous a bien plu, qui est assez long, qui dure 1h30, qui s'appelle Sur les toits, mais qui permet de rentrer et de sortir et d'avoir un peu une idée de comment ça se passe à l'intérieur de la prison, et puis qui parle pas mal de mutinerie, et du coup justement c'est des prisonniers qui viennent témoigner de comment ça s'est passé quand ils étaient incarcérés. Et après, dans ces films, il y a l'idée d'aborder un peu tous les thèmes dont on a parlé, donc les centres de rétention administratifs, les conditions carcérales, du coup avec pas mal de témoignages, de petits films animés sur les prisons en RDA. Voilà, donc c'est un melting pot de films qu'on pourra retrouver du coup entre 19h et 21h, et après entre 22h et minuit, si on a envie de sortir du concert et pas simplement boire une bière en discutant du prochain bal folk, on pourra aussi aller voir des films.
Et grignoter également, puisqu'il y aura une cantine. Hein.
Oui, cantine de pâtes fraîches.
Cantine qui s'appelle Iapasta.
La Iapasta, oui.
Et donc, comme tu disais, à 20h, les concerts commenceront. Donc, est-ce que c'est dans l'ordre Vegan Cancer, donc un groupe de Cré ?
De Cré, oui. Vegan Cancer, c'est une formation de 3. C'est pour ceux qui connaissent un des chanteurs là, du groupe Le Réparateur, qui est plutôt un groupe de punk. Alors là, moi, je ne les ai pas encore vus, parce que c'est une nouvelle formation. Et c'est des copains du coin, et ils disent Gothic Zouk. Donc j'ai hâte de voir, mais je ne pourrais pas forcément parler plus que ça.
Ensuite, les championnes, Riot Olympique, un groupe de Bordeaux, c'est ça ?
Oui, c'est du punk féministe. Championnes punk féministes, elles font une petite tournée dans le coin, et du coup elles n'ont jamais joué dans la Drôme, et elles sont très contentes de venir fouler le sol du gîte de la Colombe.
Et Dial Caloise, que nous avons écouté en introduction pendant le début de l'émission. Et puis ensuite, il y a une question, je me dis, par rapport à notre époque, quelle est la place de Peace and Love ?
Ma bonne question.
Justement.
Si jamais on se dit que le concept qu'on peut opposer à la peur, c'est l'amour, ou du coup l'arme que l'on a face à la peur, c'est l'amour. Oui, effectivement, il y a la place et la nécessité et d'être hyper attentif et de maintenir en fait entre nous un maximum d'amour en termes d'attention mutuelle. En fait, peut-être moi je dirais ça comme ça. D'attention à ce que personne se retrouve à chuter sans pouvoir s'en sortir, ou à être isolé en fait durablement, et avoir peut-être là, dans une période où on est quand même très tenté par la division et la division et la division et la division au nom d'identité, au nom de culture qu'on voudrait vraiment unique, parce qu'en fait on s'est fait quand même beaucoup individualiser et sur-individualiser, peut-être se reconnaître un peu mieux et un peu plus dans du commun entre nous, et peut-être que là il y a un peu d'amour en fait à chercher en nous pour mais l'amour aussi pour moi c'est une épreuve en fait, c'est-à-dire d'assumer le dissensus entre nous, assumer ce qui fait de nous qu'on est des êtres différents en fait, avec des visions différentes, avec des conflits entre nous, mais prendre la mesure en fait de tout ça et du coup se reconnaître mutuellement, pour moi c'est une démarche d'amour. Mais même le conflit en fait, finalement, si jamais il est porté avec respect entre nous en fait, il n'est pas incompatible avec l'amour. Après, la paix, pour moi, sans justice il y a pas de paix. À l'heure actuelle, la justice est une mascarade qui maintient en fait un état de guerre permanent et non pas de paix. Et donc j'aspire moins à la paix qu'à la justice, parce que si une fois que la justice viendra, la paix sera avec elle en fait. Et du coup en fait, au lieu de paix et amour, je le dirais pas comme ça. Peut-être que moi je dirais que ce serait sain de reconnaître l'état de guerre totale que l'on porte, que le système capitaliste en fait, qui est la guerre de tous contre tous en fait, et de chacun contre chacun. Eh bien, de peut-être reconnaître ça ensemble pour pouvoir faire un vœu de paix ou de justice, mais reconnaître l'état de guerre qui nous est imposé, en fait.
L'émission se terminant, nous allons finir celle-ci avec un morceau donc de Assassin, l'État Assassin. Et puis, est-ce qu'il y a un moyen de prise de contact avec vous? Sinon, ne serait-ce que de venir le 20 avril.
Bah, on peut peut-être rappeler que samedi 20 avril, du coup, ça commence à 4h et ça se passe au Gîte de la Colombe. Le Gîte de la Colombe, c'est à Aurel. Il y a de quoi se garer sur place. C'est cool s'il y a du covoiturage parce que il y a de la place pour le parking. Mais du coup, voilà. Et qu'on peut aussi dire que la soirée se terminera à 1h parce que ça, c'est le deal avec le lieu et les voisins. Et c'est important parce qu'après Dial Caloïse, on va avoir du mal à s'arrêter, je pense, vu la qualité du groupe. Mais voilà. Et non, on n'a pas de contact.
Jean B et Tiffen, merci donc d'être venus nous parler de cette journée et je vous souhaite une bonne soirée.
Bye
au revoir.
Salut à vous.
Un exemple Marie-Kouziki. On a été
Yeah. tu vas tomber.
Pas encore, c'est ça le combat. Augmente la charge. 360. Contact.
Vous voulez qu'on respecte votre état policier. Vous nous dites que tous les flics ne sont pas mauvais. Que si la police n'était pas là, ce serait pire encore. Que la société a besoin de vous, sans compter ses morts. Mais c'est fini, le peuple se réveille et nous demandons des comptes. Le pouvoir judiciaire doit prendre au sérieux ce que l'on raconte. L'amour de l'ambiance quand la bavure frappe. La police et l'armée sont des gangs organisés dont je prends mes marques. Un exemple, le comportement dans les émeaux du 18ème. Ils frappent les jeunes, les vieux, les enfants afin que l'ordre règne. Nous sommes basés pour le chapitre des enculeries politiques, financières, policières. Le business des affaires est prospère quand tout se règle dans les couloirs des ministères. Et pendant qu'assassin est censuré quand il s'exprime, le gouvernement est à la tête d'un État qui assassine.
Y'a l'État assassine. Je vous m'a la bouche qui vous prie. La police est comme un con. Y'a l'État assassine. Ma colère en a un vérité. La police est comme un con. Y'a l'État assassine. Le droit en a un vérité. Paix à toutes les victimes. Y'a l'État assassine.
Et je parle des bases policières. Nous le faisons quand dans un éclair tout s'arrête. Quand tu prends une bastos en pleine tête par les responsables du maintien de l'ordre public. De l'ordre public ou de l'ordre politique. Du délire d'un flic où l'erreur est humaine. Alors moi aussi, dites-moi, je dégaine. Le crime est-ce un produit du système? La haine appelle la haine si ton esprit se referme. Le doigt sur la gâchette, mon front transpire. Mon cœur bat plus vite. Mes pulsations s'excitent, le sang coule dans mes yeux. Mais je mérite mieux. Pourquoi le shooter lui et pas un autre? Si je shoote ce keuf, je devrais shooter les autres. Mais ce sont des hommes, ça y est, ma tête explose. Toutes tes valeurs s'entrechoquent, car la question que je me pose est: doit-on répondre de la même manière aux violences policières? Mais je ne changerai pas le cours de l'histoire si je shoote un commissaire. Si il a buté mon frère, ça pourrait me satisfaire. Mais le cul entre quatre murs, il ne me restera que la prière. Oh shit! Ma personne s'excite et mes doigts sur le calibre sont moi tremblés, s'agitent. Les secondes paraissent des heures. Et l'odeur de l'acier dans ma main a un goût de rancœur. Tant pis je shoot, tant pis je shoot. Je n'en ai plus rien à foutre dans ma tête, il n'a plus de doute.
Réveille-toi,
oh, redescends,
refais. Oh, 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 oh,
mais mec, pas un rêve, un putain de cauchemar. J'étais en train de shooter un cœur.
Shooter un cœur. L'État assassine, n'a rien de plus mal. Écoute, je dis oui. La police est comme un con. Car l'État assassine, ma tombée. On a été victime.
Les victimes, paix à toutes les victimes, paix à toutes les victimes, paix à toutes les victimes, paix à...